Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Renders, venue nous présenter son roman « L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux », publié aux éditions Décalogue, et Benjamin Melazzo pour son ouvrage « Lumière, horizon des événements », publié aux éditions Captive. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle « Michel Polna se fâche » ou « Le conte au bois dormant ». Bonjour à vous trois, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer avec Laetitia Renders. Laetitia, l'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux, est votre 21e roman. Alors qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture?
En fait, j'ai participé à un concours d'écriture en Belgique, et un petit peu par hasard, et j'ai remporté le concours, et ma nouvelle a été éditée dans un magazine féminin pendant 5 semaines, et ça a été un petit peu le déclic. Et puis je me suis dit, bon, j'ai su faire une vingtaine de pages en faisant une nouvelle, je vais essayer le roman, 500 pages. Je me suis lancé un défi, mais pour moi-même au départ. Je suis parvenue au bout des 500 pages, je l'ai fait lire à mon entourage, qui m'a toujours dit, ah, c'était vraiment génial. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de le lancer en maison d'édition. Je l'ai envoyé et quelques mois plus tard, ben, j'ai reçu une réponse positive, et depuis 2012... mon roman est édité, le premier, Rouge Poison. Et depuis, je ne m'arrête plus.
C'est merveilleux. Alors, à lire votre biographie, vous ne vous limitez pas à un seul genre. Roman fantastique, thriller, polar, roman psychologique, livre pour la jeunesse. Il y a un genre que vous affectionnez particulièrement?
J'aime bien ce qui est assez sombre, assez tortueux, l'univers un petit peu noir. Donc forcément, la littérature fantastique s'y prête bien. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Et puis, je me suis lancée aussi dans le roman policier. Donc voilà, c'est surtout le roman policier, le roman fantastique, le thriller qui me plaît le plus dans tous les styles.
Alors, L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux est un thriller fantastique.
Oui,
racontez-nous.
C'est un thriller fantastique sur fond de sorcellerie, légèrement historique, puisque le personnage principal, Athénaïs de Mortemart, est une descendante de Madame de Montespan. L'affaire des poisons, Louis XIV, dont je fais quelques rappels dans le livre. Et donc, la jeune fille a eu une jeunesse assez particulière, une naissance assez particulière, harcelée à l'école. Elle se met en tête de se venger de ses camarades de classe, à la manière de Madame de Montespan, se venger des courtisanes de Louis XIV en les empoisonnant. Voilà un petit peu le début de l'histoire.
Oui, alors Athénaïs de Mortemart est une femme donc prédestinée. Son nom et le lieu où elle réside?
Tout à fait, puisqu'elle réside à Montespan, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté pour le lieu. Et effectivement, donc elle fait la plupart de ses sortilèges dans les ruines du château de Montespan.
Oui. Alors c'est aussi... Elle a des dons exceptionnels. C'est une sorcière. Alors, je ne dévoile rien puisque cela figure sur la 4e de couverture. Alors, vous-même, vous êtes intéressée par la magie, par le...
J'aime bien l'univers fantastique de manière générale. J'avais déjà, dans mes autres romans, touché les vampires, les anges et les démons. Et donc, je me suis dit, je vois bien que le public aime beaucoup la sorcellerie. Les gens aiment beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais faire avec un monde de sorcières. Donc, voilà pourquoi... est née, je dirais, Athénaïs dans mon esprit.
Oui, alors vous avez dû faire des recherches, parce que si vous n'y connaissiez rien au départ...
Oui, j'ai fait donc pas mal de recherches sur l'affaire des poisons, mais notamment pour un autre roman, donc pour le roman historique, sur la famille Romanov avec les poisons. Donc j'avais fait un lien avec mon livre, donc j'avais fait pas mal de recherches, et je me suis dit, effectivement, avec la voisin, le monde un petit peu mystérieux de l'affaire des poisons avec Louis XIV, et les sorcières de Saba, évidemment, hein, quand on retourne plus loin, je me suis dit qu'il y avait de matière à creuser. Donc effectivement, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai fait des liens évidemment avec Montespan aujourd'hui et Montespan à l'époque et puis Paris. Donc ça a beaucoup influencé l'écriture.
Alors vous parlez bien sûr de plantes vénéneuses. Alors j'ai pas eu la curiosité, parce que peut-être de peur d'être tentée, de voir si elles étaient très très nocives ou pas.
Certaines sont très nocives, oui. Généralement, les sortilèges qu'elle emploie sont réels, enfin sont réels. En tout cas, au niveau des poisons, oui. Il y a un peu de magie dedans aussi. Hein. Donc tout n'est pas réel, mais effectivement, l'utilisation des fleurs et des plantes dans la sorcellerie pour faire, en tout cas, des poisons est très courue, très connue.
Donc quand elle était petite, elle était harcelée et en plus, elle était un peu trahie par son meilleur ami, Stéphane.
Tout à fait, oui, effectivement. Donc, comme je disais, elle avait une naissance un petit peu particulière. Jeune enfant, elle a toujours été un petit peu gothique, un peu sombre, l'univers. Donc, d'ailleurs, ses meilleurs amis, ses compagnons sont trois corbeaux dotés de paroles. Elgar, Agatha et Lénore, qui s'inspirent de répliques de films pour s'exprimer. Donc, pour donner une petite note humoristique à l'univers un petit peu sombre. Et donc forcément, les camarades de classe ne voient pas ça d'un très bon œil, ni la famille d'ailleurs, parce que Montespan est un petit village, comme on peut les connaître, où tout le monde parle sur tout le monde copie tout le monde a son nez dans les affaires des autres. Et donc forcément, la petite gamine qui s'habille de noir et qui fait penser plus à un Mercredi Adams qu'à une jeune fille correcte, inspire un petit peu la haine.
Bien sûr.
Et donc voilà pourquoi elle était un petit peu marginale et elle a été harcelée. Oui. On a le thème du harcèlement, effectivement, qui est quand même assez présent et assez violent dans le roman.
Oui, bien sûr.
Oui.
Et heureusement, elle a un père qui est un notable dans ce village de Montespan, donc ça aide un peu.
Ça aide, c'est ce qu'elle dit, donc elle le dit dès le départ, c'est grâce un petit peu à mon père et au statut, parce que c'est un magnat de l'immobilier, qui a fait qu'elle a pu s'en sortir malgré tout, malgré la haine de ses camarades. Elle avait évidemment été parvenue à avoir un ami qui finit par la trahir également, et puis qui revient quelques années plus tard quand elle est jeune femme. Et c'est à partir de là qu'elle fomente sa vengeance, d'ailleurs, pour se venger de lui.
Oui. Mais bon, en même temps, elle a un peu pitié de lui quand même, parce que lui, il est quand même suspecté d'avoir tué sa compagne.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il revient, lui, d'ailleurs, à Montespan, parce qu'il travaillait, il était professeur de gymnastique, donc il avait sa vie, il était parti, il avait quitté le village, et il est obligé de revenir parce qu'il a été accusé, à tort ou à raison, en tout cas, il a été disculpé du décès de sa petite amie. Et donc, forcément, il revient avec,
il est rayé des cadres de l'éducation.
C'est ça,
il a
premièrement, et puis alors évidemment, les cancans du village. Et donc il y a un petit peu, c'est un petit peu dirigé vers quelqu'un d'autre, donc ça arrange un petit peu Athénaïs aussi, mais elle s'en fait quand même un petit peu mal parce qu'elle l'a quand même aimé. Donc bon, voilà, il y a une petite histoire d'amour un petit peu.
Un peu contrariée,
voilà, exactement.
Alors vous faites dire à Athénaïs, on ne peut pardonner que les choses pardonnables, la trahison n'en fait pas partie. Alors vous souscrivez, on ne peut pas pardonner une trahison, quelle qu'elle soit?
Athénaïs trouve qu'elle ne peut pas pardonner, c'est sûr. Moi, personnellement, je suis très rancunière, donc je serais un peu d'accord avec elle quand même. Elle m'a quand même un peu inspirée. Il y a certaines trahisons qui ne sont pas pardonnables, je pense. Oui, effectivement.
Alors on a dit que vous précisiez que les corbeaux ont la capacité de reconnaître les visages humains et sont connus pour être rancuniers envers ceux qu'ils n'aiment pas.
Voilà.
Alors j'avoue, je ne le savais pas.
Oui, mais enfin, c'est un petit peu aussi comme des perroquets. S'ils sont en captivité, ils peuvent parler. Mm-hmm. Donc je n'ai pas inventé, c'est pas de la magie. Un corbeau peut répéter les choses à la même manière qu'un perroquet.
Oui. Et vous aimez les corbeaux, vous?
Mais disons que c'est justement parce que c'est un animal un petit peu décrié, du diable. Mais on dit d'ailleurs au niveau de la Bible que c'est le premier oiseau que Noé a envoyé pour aller voir si la terre était... le déluge était parti. Il n'est jamais revenu, le corbeau. Hein. Donc il a un peu trahi Noé. Et j'aimais bien ce concept un petit peu noir, un petit peu démoniaque, qui va très bien avec la sorcière, les corbeaux.
Donc c'était
vraiment les personnages adéquats pour... Il y avait le chat aussi, mais bon, je me dis que c'est un petit peu trop commun, le chat et la sorcière. Donc moi, je vais mettre des corbeaux, c'est un petit peu plus original.
Oui. Voilà. Mais je crois que leur réputation doit beaucoup à Alfred Hitchcock quand même. Parce
qu'on
a
les
tous
oiseaux.
Été perturbés par ce film, les oiseaux.
Tout à fait, mais c'était pas des corbeaux. Hein. C'était pas des corbeaux
Hitchcock.
Mais
c'est vrai, mais... Automatiquement, quand on voit corbeau, on pense à Hitchcock.
C'est vrai.
Ouais. Alors, votre roman se décline en chapitres assez courts. Chaque chapitre débute par une citation. Alors, les références sont assez éclectiques. Hein. Il y a Jean-Jacques Rousseau, Anatole France, Paul Valéry, Michel Dedecker, que j'aime bien, entre autres. Alors, comment choisissez-vous les citations? Vous avez un répertoire de citations que vous aimez ou vous êtes obligé de les chercher pour que ça colle au texte?
Voilà, je les cherche. À chaque fois qu'il y a une référence, ça ne concerne pas nécessairement toujours tout le chapitre, mais en tout cas un point bien précis du chapitre. Donc, je les recherche à chaque fois.
Ah oui, ça doit prendre un temps fou, ça.
Oui, à chaque fois.
Oui. Alors, vous utilisez notamment une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « Tous les moyens sont bons tant qu'ils sont efficaces ». Vous pensez réellement que tous les moyens sont bons?
Pour nourrir mon texte, oui.
Oui,
voilà.
Mais dans la vraie vie?
Dans la vraie vie, non, pas nécessairement. Non,
non.
Ça, non. Non. C'est pour ça que je l'utilise d'ailleurs dans la littérature, parce que là, tout est permis.
Ben oui, justement. Mais voilà. Il y a des fois, on peut...
Non. Ça reste quand même toujours de la fiction, ça reste quand même toujours de l'imagination. Il ne faut pas nécessairement chercher un lien entre Athénaïs et moi, il n'y en a pas nécessairement.
Non,
même pas du tout.
Non, mais des fois, il y a quelques phrases qui font un peu mouche, comme ça, on se dit, tiens, peut-être que c'est...
Mais ça peut amener à réfléchir,
oui,
bien sûr. Des fois, quand on hésite sur certaines choses, on peut prendre cette citation en exergue et l'utiliser. Maintenant, évidemment, on a quand même un libre arbitre, mais peut-être ne pas franchir certaines zones. Maintenant, c'est à voir à tout un chacun. Hein. Moi, en tout cas, non. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de limite.
Alors, quelques citations n'ont pas de référence. Je suppose qu'elles sont de vous?
Non, pas nécessairement. Ou alors, c'est parce que c'était anonyme. Ou alors, ça vient de moi. Ça dépend lesquelles.
Alors, j'aime bien celle-ci particulièrement. Alors, aucun sentiment de culpabilité ne peut résoudre le passé et aucun sentiment d'anxiété ne peut changer l'avenir.
Oui.
Oui. Du carpe diem, vous aimez bien?
Oui, vive le moment présent.
Oui,
voilà,
c'est
je
ça.
Trouve qu'avec les périodes qu'on a traversées, la vie est courte. On peut partir du jour au lendemain, donc il faut profiter du moment présent. Donc il faut vivre à fond. Voilà, c'est un petit peu... Et puis comme je suis une grande nerveuse, grande stressée, ça allait bien. Avec le thème aussi.
Alors vous êtes une des rares écrivaines qui vivent de leurs plumes. Vous devez en être fière, je suppose.
Oui. Je suis fière de parvenir à écrire un roman. Je suis fière d'avoir des lecteurs qui me suivent et qui m'aiment, enfin qui aiment ce que j'écris. Maintenant, je peux en vivre, mais c'était pas le but premier de l'histoire. Maintenant, j'y parviens. Bon, c'était pas toujours simple. On a mangé des pâtes blanches tous les jours, assez souvent, parce que ça a été dur au début. Mais maintenant, j'ai un lectorat assez impressionnant. Je suis même étonnée moi-même du nombre de lecteurs. Et c'est vrai que je peux en vivre, mais j'en suis fière. Je suis surtout fière de mes lecteurs et de la relation que j'ai avec eux. C'est d'autant plus ça. Je ne vois pas vraiment ça comme un métier, en fait. Je vois plus ça comme ma passion.
Oui, ben c'est sûr. Alors, à votre avis, à quoi est dû votre succès? Parce que vous avez certes beaucoup de talent, mais vous n'êtes pas la seule à en avoir du talent. Et pourtant, il y a beaucoup d'écrivains qui sont obligés d'avoir un métier à côté pour pouvoir vivre.
Je ne sais pas pourquoi. Il faut demander ça à mes lecteurs, pas à moi.
Mais je suppose que vous vous déplacez beaucoup, vous allez beaucoup à leurs rencontres.
Effectivement, je fais énormément de salons. Je travaille plus avec les salons littéraires qu'avec les libraires. Donc on fait jusqu'à 40, 50 salons l'année. Donc forcément, on va un petit peu partout à la rencontre des lecteurs.
Oui, ça fait au moins un par semaine, ça.
C'est pratiquement tous les week-ends. On essaye, que ce soit des salons, que ce soit des médiathèques. Voilà,
donc je suppose que vous aimez rencontrer vos lecteurs, mais c'est pas un peu lourd quand même
si.
De se déplacer sans arrêt?
C'est lourd. Ça peut paraître lourd des fois, quand on est dans un hôtel, on se demande où on se réveille, parce que c'est un rythme assez important, mais quand on discute avec le lecteur, on échange par rapport à ce qu'ils ont lu, à ce qu'ils ont éprouvé, ça efface un petit peu la fatigue et la dureté de voyager comme ça, de ville en ville et de salon en salon.
Oui. Vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps quand vous allez à la rencontre de vos...
Ça arrive des fois, il y a des salons où il y a très très peu de monde parce que, bon, voilà, c'est... Alors là, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là?
Oui,
je serais peut-être mieux chez moi à écrire. Mais puis, sur le salon, il y a toujours bien une personne qu'on rencontre, on va échanger avec la personne et une personne suffit. Mmh. On commence à échanger quand une personne vous dit, oh, vous m'avez donné le goût à la lecture, je n'aimais plus lire, grâce à vous, je relis. Ah, ça, c'est un plaisir fou. Ou quand on échange d'un personnage, oh, on m'a déjà dit, oh, j'ai adoré ce personnage-là, c'est le prénom que j'ai donné à mon enfant qui vient de naître, exemple. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on n'oublie pas et qui font qu'on avance et qui nourrit mon imagination.
Alors comment écrivez-vous ? Vous avez des rites ? Vous êtes du genre à écrire n'importe où ou à vous atteler
Non, j'aime bien le silence.
Oui.
Il ne me faut absolument pas de bruit.
Oui.
À la limite, je prends même un casque anti-bruit pour écrire. Il faut vraiment que je sois dans ma bulle au moment de l'écriture. C'est ça au niveau, donc, au moment de l'écriture. Et mon petit rituel, j'en ai peut-être un seul, c'est faire une petite gigue quand j'ai terminé le bouquin. Donc j'ai terminé, dernier chapitre, je me mets à danser.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah, écoutez, c'est bien. Et quand vous commencez à écrire votre livre, vous avez déjà le plan bien en tête ? Vous connaissez la fin ou vous vous laissez porter ?
Moi, je me laisse porter. Donc, comme je dis toujours, deux styles d'écrivains, les jardiniers et les architectes. L'architecte, il a le chapitre par chapitre, tout le détail du livre. Il connaît le début, il connaît la fin. Et le jardinier, il plante la graine. C'est ce que je fais. J'ai une idée de base. Je plante et je laisse aller, germer. Ça me mène... aux aléas, enfin, en fonction de ce que je vois, de ce que je vis, des recherches que je fais. Et je me laisse diriger, vraiment, au fil des jours.
Vous passez plus de temps à faire des recherches qu'à l'écriture ?
Je dirais que oui. Maintenant, je ne fais pas mes recherches, et puis l'écriture, je fais mes recherches en écrivant. Puisque forcément, je ne sais pas où je vais, je ne connais jamais la fin de mon bouquin quand je commence à l'écrire. Donc forcément, mes recherches, elles viennent... petit à petit, au fil des jours. Donc, j'écris, je recherche, j'écris.
Mm-hmm.
Donc, je dirais que c'est 50-50.
Oui. Et comment vous décidez tout d'un coup que vous allez écrire un livre pour la jeunesse ou un polar ?
Une idée.
Une idée, comme
une
ça,
idée qui germe, comme ça, une discussion, un moment de vie, ce que je vois, ce que je lis des fois. Ça m'influence et puis voilà, j'ai une idée, je cherche où elle pourrait me mener.
Alors, vos projets d'écriture ?
Alors, le 24 novembre sort la cinquième enquête de Nora. Donc, Nora est commandante de police à la DRPJ de Paris. On la suit dans différentes enquêtes. Il y en a forcément cinq. À chaque fois, la même équipe, des enquêtes différentes. Et le sixième sortira au mois d'avril. Donc, ce sera le dernier des enquêtes de Nora. Donc, pour l'instant, je suis dans ce qui est la littérature policière.
Oui.
Jusque l'année prochaine.
Et c'est plus difficile à construire un roman policier qu'un thriller ou une romance ?
Non.
Non ?
Non. Je ne trouve rien... Ce qui m'a paru le plus compliqué à écrire, ça a été le roman historique. Mmh. Parce que là, forcément, j'ai dû travailler à la manière d'un architecte, puisque l'histoire, on ne sait pas la refaire. Il y avait les dates, il y avait le rythme était déjà fait. Donc là, ça a été plus compliqué pour moi. Maintenant, que ce soit du thriller, du polar, du roman fantastique, je le fais de la même manière. Donc je l'appréhende de la même manière. Donc... c'est pas plus compliqué.
Et pour les enfants, vous écrivez comment alors ?
Ça, c'est grâce à ma fille que j'ai commencé à écrire Valentin et Valentine. Maintenant, elle a 16 ans, mais à l'époque, elle était plus jeune. Elle avait des petits problèmes pour dormir. Elle avait toujours peur du noir. Il fallait toujours une petite veilleuse. C'était toujours un calvaire pour la mettre au lit. Et donc, je suis allée à la pharmacie, poser qu'est-ce que je peux faire. Et la dame m'a dit, mettez quelques gouttes d'huile essentielle de mandarine dans un diffuseur. Racontez-lui une petite histoire. Et puis, retirez le diffuseur. La mandarine va l'apaiser. Elle va s'endormir. Moi, je me dis, OK, j'ai essayé. Et en lui faisant sa petite mixture de mandarines, je lui ai raconté une histoire sur des mandarines, forcément. Je n'ai pas parlé d'autre chose, donc j'ai inventé. Et je l'ai fait une fois, deux fois, une semaine. Et après une semaine, c'était beaucoup plus... elle était contente d'avoir sa mandarine. Elle allait avec plaisir au lit. Donc je me suis dit, c'est génial, ça marche bien cette histoire de mandarine. Il y a plein d'enfants qui ont des soucis pour dormir, donc... je vais écrire un livre, et donc j'ai écrit Valentin et Valentine au champ de mandarine pour Valentine et Valentin au champ de raisin pour jouer sur la rime. Mmh. Et voilà comment est né Valentin et Valentine.
Je suppose que c'est moins noir que dans certains romans.
C'est pas noir du tout. Là, par contre, c'est très coloré, avec plein de fruits. Il n'y a pas de corbeau. Non, non. Oh. Là, c'est beaucoup plus... beaucoup plus léger. Et c'est vraiment grâce à ma fille. Et le jeunesse, mon grève aux vies, c'est également grâce à ma fille, puisqu'elle fait de l'équitation et elle est participée au championnat de France d'équitation à la Motte Beuvron. Et donc, elle a eu pas mal de petits soucis, de rancœur, de jalousie avec des copines, etc. Et donc j'en ai fait un livre également. Elle racontait un petit peu son parcours pour participer au championnat de France et c'est devenu Rêve aux vies.
D'accord.
Voilà comment je fais mes livres pour enfants. C'est ma fille qui m'inspire.
Ah bah c'est super. Alors nous revenons après Les larmes du paradis d'Eric Clapton.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors nous sommes toujours avec Laetitia Renders, venue nous présenter son roman « L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux » publié aux éditions Décalogue, et Benjamin Milazzo pour son ouvrage « Lumière, horizon des événements » publié aux éditions Captive. Avant de donner la parole à Benjamin, John Blyth va nous faire la lecture de sa nouvelle.
Oui, alors donc après la nouvelle Radio Patate sur ma grand-mère et ça t'embouche un groin sur l'adoption d'un cochon par mon fils, voici une nouvelle, quelque peu loufoque et bizarre, que j'ai intitulée « Michel Polnat se fâche » ou plus gentiment le « Conte au bois dormant ». Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. Quelques jours auparavant, j'étais encore fou amoureux d'elle, de ma douce Annabelle au bois dormant. Mais elle a élevé le ton quand je lui ai demandé de laver mon armure. Et elle m'a dit qu'elle avait un fiancé. Alors à ce dernier, j'ai offert une pomme empoisonnée donnée par une sorcière. Il en est mort, et en très peu de temps. Mais dès le lendemain, le roi l'a appris, et ses soldats sont venus m'arrêter. Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux. J'ai peu de chance de m'en tirer vivant, et qui viendrait d'ailleurs me sauver après ce que j'ai fait. Cette nuit, pourtant, j'y ai cru quand il est arrivé, lui. Mais sombre déception, celui que j'attendais, le chevalier de Roncevaux, a été retrouvé mort ce matin devant les douves. Ah, il avait sonné de l'olifant toute la nuit pour se faire ouvrir les portes du château. S'étaient rompues les artères sous l'effort. Malchance terrible, l'explosion de 2 tonneaux de poudre il y a quelques jours à la porte de guet avait rendu sourds les gardes de l'entrée, et ceux-ci n'ont rien entendu. J'ai pourtant encore une toute petite chance de sauver ma peau. Mon voisin de geôle me semble sympathique et surtout très costaud. Et il répond au doux nom d'Hercule. Et ses muscles saillants me sont devenus encore plus sympathiques quand je l'ai vu tester le premier barreau de notre prison, donnant sur la rue, le tordre, puis le remettre sans effort à sa forme initiale. Alors, nous attendons la nuit pour nous enfuir tous deux. Quoi, je suis fou, non? Je serai pendu demain matin. Ça fera 4 lignes dans les journaux. Cette nuit, peu avant minuit, une jeune fille qui courait dans la rue a trébuché devant le soupirail de ma geôle. Dans sa chute, elle a perdu l'une de ses chaussures qui a roulé à l'intérieur de ma prison. Le temps que je me relève, elle appelle que déjà elle avait disparu. Oh, ne restait plus dans la rue qu'un parfum léger, agréable, qui flottait sur les pavés humides et cette unique chaussure. À l'intérieur de celle-ci, il y avait une étiquette sur laquelle était inscrit un nom, mais à moitié effacé. Le début des lettres que j'ai déchiffrées commençait par C-E-N-D-R-I. Oh, le reste était illisible. Sandri, qui cela pouvait bien être. Oh, je serai pendu demain matin. Ça fera 4 lignes dans les journaux. Un peu avant 2 heures du matin, les aboiements de toute une horde de chiens dalmatiens, échappés des oubliettes du château, m'ont réveillé. Ceux-ci étaient poursuivis par la reine Cruella, lancée à leur trousse, qui hurlait des mots injurieux. Si injurieux, hein, que même Walt Disney et feu ma grand-mère ne les connaissaient pas. Ils ont tous disparu mystérieusement dans la brume entourant la citadelle. Michel Polnat, trop s'est fâché, par du poison a tué le fiancé. Pour ce crime d'amour, il sera pendu haut et court. Oh. Mon voisin de cellule, celui-ci costaud, il a fini par s'endormir dans la geôle voisine et pas moyen de le réveiller. Je l'entendais pourtant dans son sommeil répéter « Juliette, Juliette, je suis ton Roméo venu t'enlever !» Mais visiblement, je n'étais pas sa Juliette. Pour finir, j'ai reçu au petit matin la visite d'un religieux et de 7 nains qui l'accompagnaient. Oui, 7. Tous les 8 m'ont dit que c'était très vilain ce que j'avais fait. L'un d'eux sur un ton joyeux, un autre sur un ton grincheux, l'autre sur... Au troisième qui parlait, je n'écoutais déjà plus. Je regardais leurs barbes s'agiter comme des crucifixes miniatures. J'ai hoché longuement la tête et j'ai hurlé à ce moment. « Dehors !» Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes dans les journaux.
Merci John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Laetitia Renders, venue nous présenter son roman « L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux » publié aux éditions Décalogue, et Benjamin Milazzo pour son ouvrage « Lumière, horizon des événements » publié aux éditions Captive. Alors Benjamin, vous êtes un homme éclectique, vous êtes directeur de l'espace culturel de Bouzonville.
Alors, non, c'est plus le cas.
C'est plus le cas ? Ah bon, pardon, alors votre biographie n'est pas bien à jour, sur le net. Vous écrivez des poèmes, des récits narratifs, vous animez des ateliers d'écriture et vous participez à des lectures publiques où vous partagez vos textes. Vous avez encore d'autres cordes à votre arc, mais nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Et vous venez de publier « Lumière, horizon des événements », un ouvrage qui montre deux expressions artistiques, les photographies d'Alain Baumgarten accompagnées de vos textes poétiques. Comment est née cette collaboration ?
Pour moi, dans la perception de cet ouvrage, c'est avant tout un ouvrage de photographie, où on a inversé les rôles, et c'est pas le texte qui a le premier rôle, c'est vraiment les photographies, et les textes viennent illustrer ces photographies. On a tiré sur ces 92 photos, 7 chapitres, avec des univers photographiques très singuliers, pour lesquels on a un environnement et une histoire de la photographie qui est aussi racontée par différents procédés qui sont explorés par Alain Baumgarten, pardon. Et je me suis inspiré à travers ces chapitres de cet univers, de cet horizon, parce que le dénominateur commun de ces séries de photos, c'est qu'il n'y a pas de présence humaine. Alors j'ai voulu laisser une empreinte humaine à travers ces textes.
Donc c'est bien les photographies qui ont inspiré les textes, c'est pas l'inverse.
Oui, c'est comme ça que ça a été construit.
Et alors, vous voulez bien, pour nos auditeurs, expliquer une photographie, si vous le pouvez, et puis lire le texte qui l'accompagne.
C'est la première photo de la série Laura. Et donc, vous m'allez laisser le défi de la décrire, ce qui est très radiophonique.
Oui, bien sûr.
Donc, nous sommes dans un format carré, qui est le format de l'ouvrage, et dans un univers très sombre, où un feuillage en négatif vient illuminer la page. Cette illumination se fait à travers les veines de ces feuillages qu'on peut voir comme cette saison en ce moment à l'automne, et on traverse ce chemin de lumière comme des veines qui parcourent la photo. C'en est presque abstrait, on est à la frontière entre la pénombre et la lumière, et il y a des taches, on ne sait pas si ce sont des taches sombres ou des taches de lumière, mais en tout cas ça transparaît, ça emporte.
Et alors, le texte qui accompagne cette photo ?
Alors, il commence comme suit. Et il s'intitule « Laura, L apostrophe ». Je rêve de vous, comme d'une fleur, plurielle, avec des ailes. Je vous vois volatile, comme les songes, et presque aussi réel qu'un espoir peut vouloir vous saisir. De ceux qui franchissent au soir le seuil par leur aura parfumée. Vous m'êtes filante, comme les perles de rosée, qui glisse, aspirée par le matin. Vous m'êtes saisissante, comme ce mouvement qui emporte la nuit vers le jour, ou bien est-ce le jour vers la nuit ?
Merci. Alors, vous êtes poète et vous avez récemment obtenu le premier prix national pour un de vos poèmes, c'est ça ? Racontez-nous.
Oui, il s'agissait d'un concours d'écriture nationale lancé par l'association Cap sur le Rhône, qui promeut des projets de biodiversité et de vie autour du fleuve pour justement le préserver. Et c'est cette étiquette environnementale qui m'a donné envie d'y participer. Et j'ai eu la chance de remporter le premier prix où j'évoquais un récit au long cours, justement, un poème très long, sans ponctuation, comme un courant qui file.
Il y avait beaucoup de concurrents ?
Je crois qu'on était plus de 250 participants.
Ah oui, oui, il y a de plus en plus de poètes en ce moment.
La poésie est vraiment aujourd'hui en plein boom. Il y a des maisons d'édition qui se lancent exclusivement autour de la poésie, ce qui n'était pas le cas ces 10 dernières années. On a la chance d'avoir des poètes très porteurs, d'une scène de poésie plus active, aussi en festival, où il y a des lectures qui sont organisées, où la poésie n'est pas simplement enfermée dans des rimes ou dans des vers, elle se vit vraiment sur scène et elle se partage aussi à travers des ateliers d'écriture. C'est un monde très, très varié qui permet une expressivité et une singularité dans l'expression.
Mm-hmm. Alors, vous voulez bien lire un de vos poèmes pour nos auditeurs?
Oui, volontiers. Alors, c'est un inédit qui s'intitule « Écrire dans le vent ». Je n'écrirai jamais plus que pour toi. Je laisse aux autres la portée du monde et les portes qui s'ouvrent sur les serpents textes, les silencieux mouvements sinueux dans la tête, les égos cassés de purée de pois qui verdissent le teint des intentions, les échos des mots qui fracassent et ne retiennent pas le temps, lancés pour un retentissement. Je laisse aux autres la joie tragique de recevoir ces milliers de vibrations qui littéralement vous transpercent, dénuder la peau à hauteur du cul pour liker et cueillir les pouces glossies avant même d'écorcher les mots à la peau. Tenter de transcrire les séismes intimes des corps à l'heure du dîner pour jaillir, en surface sans le secret englouti des entrailles. Les émotions au miasme fiévreux, au fiel heureux de contenance, se contenter d'être plus vieux, de rebondir flasque en flaque, comme un monstrueux mollusque s'en prenant au ciment de la vie. C'est la curée de la purée de pois cassée par le souffle fatigué de la fusion des émotions. Quand le fait divers devient une saison, l'écran fige tout ce que nous connaissons d'abondance et fixe nettement l'horizon plat. Je serais heureux de délaisser les mots, m'en prenant au grain de chaque mot, pour m'en remettre au vent. Alphabétiser sans bêtise, l'humidité ambiante, susurrer au brouillard, souffler à l'oreille de la tramontane toute l'insignifiance de ce qui caresse le vent et mord la vie. Je n'écrirai jamais plus, même pour toi, je me glisserai dans le vent. Je dirai au vent de fuir, de s'emparer des vibrations, de s'évader avec moi. J'aurai l'impression d'être enveloppé dans un mouvement perpétuel, étiré pour te dire, même sans voix, combien tu m'invites à m'élever, à me noyer, lié en moi-même, pour sauver la juste expression. Combien ces mots n'ont de sens que pour moi. Je revendique cette douce insignifiance. Avec toi, je veux être le vent. Je veux porter de vrais signes poétiques, de ceux qu'on connaît que dans les paysages géologiques, de ceux qui pèsent, comme ces vases qu'aisément précipitent la magie des floraisons, pour les lumières et des siècles, de ceux qui puisent l'art uniquement, de ceux qui touchent le blanc, de ceux qui ne cachent rien, de ceux qui s'insèrent et brassent le vent. Alors le vent taira. Alors le vent pleurera. Alors le vent terrera. Alors le vent pleuvra. Alors le vent s'élèvera. Alors le vent ventera. Alors le vent, sans jamais s'éroder, se renouvellera. Jusqu'à toi, suspendu à ton souffle.
Merci Benjamin. Alors vous êtes un adepte de la poésie, uniquement poésie, ou vous aimez aussi qu'elle soit accompagnée de musique, ou voire des poèmes mis en musique?
Non, justement, c'est cette diversité qui fait la singularité de chaque proposition artistique autour des mots. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche du langage, de le réinventer, de ne pas s'inscrire... Alors, on s'inscrit toujours dans une histoire, mais de ne pas s'arrêter dans le temps. Et justement, de continuer, de poursuivre une évolution dans ce travail d'écriture, de travail autour de la langue, qui n'est pas uniquement forcément lié à un genre de la poésie. On en parlera peut-être, mais Captive Édition, c'est une association...
Non, on en parle après. Mais
en tout cas, c'est de trouver de la poésie dans les textes, oui. Qu'ils soient narratifs, qu'ils soient ceux que Laetitia a évoqués tout à l'heure. Je suis certain, je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais qu'on retrouve de la poésie dans l'évocation des images. Ce rappel des corbeaux, c'est quelque chose qui rejaillit, qui est pour moi une forme de poésie dans les récits.
Mmh. Et comment dire, vous le travaillez longuement, votre poème, ou ça vous vient naturellement?
Oui, je considère qu'il y a à peu près 80% de travail de relecture et de réécriture.
Mmh. Et vous mettez combien de temps pour écrire un poème? Ça dépend de la longueur, bien sûr, j'imagine.
Celui-ci, par exemple, m'a pris 4 jours entiers, enfin un week-end complet, plus quelques soirées. Voire nuit.
Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est très prenant.
Oui.
Alors, vous êtes également le fondateur de Captive Édition, une maison d'édition associative dont l'objectif est de participer activement à la création littéraire et à sa diffusion. Alors, comment en êtes-vous venu à créer cette maison d'édition?
Au lendemain du confinement, après 2020, j'ai eu la chance de participer à des ateliers d'écriture en ligne pendant le confinement. ceux de Laura Vasquez, qui a reçu le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre. Et j'ai eu ce besoin de faire vivre quelque chose autour de l'écriture, de m'engager. Donc c'est très modestement autour d'une association que j'ai choisi de le faire pour faire vivre des textes, pour encourager simplement à l'écriture et pour faire un travail de création d'atelier d'écriture où je m'épanouis également parce que j'apprends au contact des gens qui... on n'a pas d'école aujourd'hui pour apprendre à écrire. On a des écoles pour faire de la musique, pour faire de la danse, mais on n'apprend pas à écrire. Et ce simple constat-là m'a un peu indigné et j'ai eu envie de faire de participer modestement à cela.
Oui. Moi, en revanche, pour les écoles d'écriture, quand on voit ce que donnent les Américains, ils sont tous à peu près sur le même modèle. C'est un petit peu désagréable, non, quand même.
Ah bah, y a plusieurs écoles. Si vous regardez le cercle des poètes disparus, le thème, c'est d'apprendre à penser par soi-même. Après, il suffit de donner le bon vecteur d'information et pas stéréotyper, effectivement. Il y a des formations qui sont très, très... prolixe, il y a une formation, un master spécialisé en art, en création littéraire à Paris, qui chaque personne de la promo édite des livres à la fin de leur formation, peut-être par réseau, par talent aussi, mais en tout cas il y a des formations qui existent, qui sont peu accessibles et pas démocratisées.
Alors vous êtes nombreux à participer à cette aventure de maison d'édition ?
Alors, en Moselle, il faut être 7 personnes pour créer une association. On a cette spécificité du droit local. Donc, on est 7 activement. On se sert de ce livre, Lumière. Alain Baumgarten et moi-même, on a décidé de ne pas prendre de droit d'auteur et de faire vraiment un bel objet d'art pour pouvoir le proposer. Et l'intégralité des bénéfices nous a permis d'éditer un second livre qui est Exil, le silence presque, d'un auteur... qui s'appelle Karim Alami, et d'éditer également la revue Miroir.
On va arriver à la revue.
Grâce à ces ventes de lumière et aussi aux ateliers d'écriture qu'on peut mener dans les classes ou dans des milieux associatifs, mais aussi à des rencontres. On a très à cœur de donner une présence culturelle dans le milieu rural. Je réside à Éblange, qui est une petite ville très modeste de Moselle. Et on introduit du théâtre et par les petits bénéfices qu'on peut se faire sur l'invitation d'une troupe à cette occasion, ça nous permet d'éditer des livres.
Alors sur la page internet de cette maison d'édition, vous précisez que Captive Édition se développe et enrichit ses collections délibérément lentement. Alors comment vous choisissez vos auteurs en fait ?
Alors délibérément lentement, c'est parce qu'on est une association, que c'est vraiment pas notre métier premier, donc on n'a pas à disposition le temps principal de le faire, mais aussi parce qu'on veut défendre des textes qui sont des coups de cœur pour nous, on ne veut pas avoir une logique commerciale qui obligerait n'importe quel éditeur à éditer de manière très régulière 5 ouvrages par an par exemple, pour pouvoir être présent en librairie. On s'est rendu compte aussi que c'était très compliqué de trouver de la place pour une maison d'édition associative en librairie, parce qu'on était souvent associé à de l'auto-édition. On est auto-diffusé, certes, mais ce n'est pas la même chose. On a un vrai travail, on édite à compte d'éditeurs, on ne demande rien aux auteurs, et on souhaite vraiment œuvrer pour avoir une collection qui nous paraît, nous, répondre à un besoin d'exigence littéraire.
Alors, vous venez également de publier le premier exemplaire papier de la revue Miroir qui, jusqu'à présent, n'existait qu'en ligne. Alors, pourquoi le choix de l'édition papier ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ?
Une édition papier, vous le savez, c'est le Graal pour toute personne qui écrit. Miroir est une revue qui est adossée exclusivement aux ateliers d'écriture de Laura Vasquez, que j'ai cité précédemment. Elle a initié ça en 2020 et j'ai eu rapidement l'envie de m'associer à cette dynamique. Je la considère comme une œuvre à part entière puisqu'il s'agit de favoriser l'expression de milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui suivent ces ateliers d'écriture à travers le monde. Dans cette revue papier, il y a des personnes qui habitent en Chine, à Shanghai. On a cette impulsion qui a tout de suite été suivie d'un bon retour. C'est la première... occasion pour certaines autrices et auteurs d'être lus. On peut écrire pour soi, mais c'est déjà une démarche totalement différente de pouvoir être lu et d'avoir des retours. Mm-hmm. Et donc, cette revue en ligne avait ce but-là. Et ensuite, on voulait, à travers la résidence que Laura Vasquez a menée à la Villa Médicis, dans son travail, sélectionner 3 ateliers particuliers et le proposer en édition papier pour la première fois. Et on souhaite que cette édition papier soit renouvelée chaque année.
Alors, vous voulez bien lire Transplantation, la nouvelle d'Ophélie Paris, donc, qui figure dans cette version papier ?
Oui, c'est vous qui l'avez choisie.
Oui, c'est moi qui l'ai choisie.
Transplantation d'Ophélie Paris. Fait divers. Chaque jour, il subtilisait 1 ou 2 carreaux de mosaïque du métro pour terminer la décoration de sa salle de bain. Le métro, le matin. Il s'appuie contre le mur. Avec son opinel, il travaille le ciment. Le mur est vieux. Les joints moisis. Il subtilise 2 carreaux de mosaïque, parfois 3. Et il prend son métro. Le soir, il rentre. Les mosaïques en poche. Il allume la lumière, entre dans la salle de bain, prend un tube, appuie sur le ventre du tube, de la pâte en sort. Il colle la mosaïque. Après 16 années, la salle de bain est terminée. Au-dessus du miroir, Adenauerplatz. La salle de bain est grande. Il se disait, c'est comme ça qu'on a construit les pyramides. Pierre par pierre. Il est fier d'avoir accompli son œuvre, de n'avoir raté aucun jour de travail, de n'avoir jamais pris le métro sans une mosaïque en poche. Il se dit, il me fallait un labeur à la hauteur de ma patience, une satisfaction quotidienne. Comment peut-on fonctionner sans satisfaction quotidienne, sans une tâche qui transcende toutes les autres ?
Merci. Mais je trouve très jolie cette nouvelle. Alors, j'avais envie de vous demander si ce n'était pas un peu audacieux de publier et des poèmes et des nouvelles. C'est des genres un peu mal aimés du public en général.
Oui, mais on se retrouve autour de formats courts. Et finalement, on se rend compte que le temps consacré à la lecture est de plus en plus réduit parce qu'il est multiplié par les choses qu'on peut lire sur un smartphone ou autre. Donc, c'est des formats qui sont réduits. On peut remarquer que dans les romans, les chapitres se réduisent. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que le temps d'attention consacré à la lecture est réduit aussi. Et donc, ce format court, que ce soit un roman avec une histoire développée, des personnages avec une densité, on peut le retrouver aussi sur des formats beaucoup plus courts, comme la nouvelle ou un poème.
Alors, vous avez aussi édité des podcasts ?
Oui, en fait, Miroir... C'est un projet global, puisque à travers les ateliers d'écriture, comme je l'ai dit, je voulais soutenir cette démarche. Pour moi, elle est vraiment artistique. C'est d'adosser une revue en ligne, cette revue papier, mais aussi un podcast. Donc on a une saison qui fait le tour de 6 personnalités qui ont participé à ces ateliers pour connaître leur relation à l'écriture, savoir comment y procéder, quelles sont leurs influences, quels sont leurs projets aussi, leurs rêves autour de l'écriture. Ça me paraît essentiel de mettre des gens dans la lumière pour pouvoir les encourager et puis montrer que c'est accessible à tout le monde. Et je me rends compte dans les ateliers d'écriture que je mène qu'il y a un besoin d'expression qui est important.
Oui, on n'a jamais vu autant d'écrivains qu'en ce moment. Ouais, c'est vrai.
Parfois, il y en a plus que de lecteurs.
Oui. Oui. Alors, je voulais... Puisqu'il nous reste... Non, déjà avant. Où est-ce qu'on peut trouver sur Facebook quel nom comment on peut vous retrouver, en fait ?
Alors, Captive Édition a un site internet dédié où on peut acheter directement la revue et les différents ouvrages qu'on met à disposition du public. On est présent dans les librairies et sur commande, puisqu'on est référencé au niveau national sur le réseau d'Illicom. Et à titre personnel, j'ai un blog, un site personnel.
Sous votre nom.
Sous mon nom, oui.
D'accord. Et vous, Laetitia, comment on peut trouver, à part à la maison d'édition, bien sûr, des catalogues, mais autrement, on peut vous joindre quelque part pour...
Donc, j'ai ma page Facebook. Sinon, j'ai une boutique en ligne à mon nom, donc Laetitia Renders Boutique, tout simplement. On peut commander tous mes ouvrages.
D'accord. Alors, comme il nous reste quelques minutes, j'avais envie de vous demander quelles étaient vos sources d'inspiration. Comment vous nourrissiez votre imaginaire ? Alors déjà, Laetitia.
En fonction de ce que je vis, de ce que je vois. Donc, pour reprendre l'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux, c'est un clip de Madonna qui m'a inspiré le personnage d'Athénaïs. Donc voilà, c'est vraiment une idée de base qui germe au fil du temps. Donc, une discussion avec quelqu'un... un film, une phrase dans un livre. Peut nourrir l'imagination. Il n'y a vraiment pas de...
Et vous les compilez pour pouvoir vous en servir un jour ou l'autre quand,
Oui, ça m'arrive. Donc effectivement, quand j'ai une idée un petit peu plus précise, de les noter pour ne pas oublier, parce que c'est vrai que la mémoire joue des tours. Donc à chaque fois, j'ai des petites notes en fonction du style ou de l'idée.
Et vous, Benjamin, qu'est-ce qui nourrit votre imagination ?
Un peu comme Laetitia, je me considère un peu comme très sensible à tout ce qui me touche, et dès lors que je capte quelque chose d'intéressant, je prends énormément de notes. Il y a un logiciel dédié qui me permet de prendre des notes quand je lis, quand je vois quelque chose, quand j'entends une émission à la radio. Voilà, je me laisse influencer aussi pour pouvoir nourrir l'écriture.
Et là, vous avez déjà d'autres projets de publication ? Alors, personnel et puis...
Avec Captive, on est encore en recherche de... On a reçu 42 manuscrits à ce jour pour cette année. On n'a pas encore fait notre choix du manuscrit qu'on souhaiterait publier. Et à titre personnel, j'entretiens un gros travail d'écriture pour essayer de proposer quelque chose d'abouti prochainement.
D'accord, merci beaucoup. Alors merci à Laetitia Renders d'être venue pour nous parler de son roman « L'enfant qui murmure à l'oreille des corbeaux » publié aux éditions Décalogue. Merci à Benjamin Milazzo venu nous présenter son ouvrage « Lumière, horizon des événements » publié aux éditions Captive et la revue Miroir, publié également aux éditions Captive. Merci à John Bullitt qui nous a fait la lecture de sa nouvelle « Michel Polnat se fâche » ou « Le conte au bois dormant ». Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui, notre jeune service civique. Et nous nous quittons sur Frozen de Madonna, bien sûr. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Thank you.
not.